Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait beau temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Soupeau.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Bonjour et bienvenue dans Prosopopée, votre nouveau rendez-vous culturel. Un lundi par mois de 17h30 à 18h, nous évoquerons ensemble la mémoire d'un auteur, d'un poète, d'une chanson, d'un musicien.
C'est le début de semaine, vous avez tout votre temps. Tout va bien, le trafic est fluide, vos idées sont claires. Accordez-vous cette demi-heure de découverte en notre compagnie.
Avec ce mois de novembre, nous rentrons dans l'hiver. 3 heures à peine de lumière pour notre bonne vieille Florac.
Alors pour contrarier et réchauffer cette grisaille, nous vous proposons d'ouvrir le bal avec une émission qui sent bon l'été et les copains. Allez, avançons dans l'année, mais remontons dans le temps. Imaginons un petit printemps, coquinet de la cuisse, un brin de soleil, un air de guinguette, partir en goguette avec sa vieille Citroën, se trémousser, boire un petit canon le long des routes. Venez vous réchauffer avec nous, vous rincer la dalle à coups de bons mots. Nous avons un vieux copain, un écrivain que l'on voudrait vous présenter. Un antidote à la morosité. C'est quelqu'un que l'on se transmet d'oreille à oreille, de bouche en bouche, entre becs fins. Comme une bonne recette de famille.
Eh oui, car tout le monde ne le mérite pas. Étriqué et cul serré, technocrate et bon petit citoyen qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Vous pouvez éteindre votre poste de radio. Nous nous adressons aux vivants, aux rigolards, aux piliers de comptoir, à ceux qui trinquent à la vie et à l'amitié.
Allez, je vous fais une fleur. Vous m'avez l'air sympa. Suivez-nous, vous allez le découvrir.
Il se décrit ainsi. Né en 1927, petit-fils de paysan bourbonnais, fils de cheminot, a été journaliste et écrivain, moustachu.
Il a le sens du mot qui fait mouche. Il dit ses splendeurs et ses misères avec une plume de fort en gueule, de gros chats sensibles cachés derrière ses moustaches, ses lunettes et sa pipe toujours fumante.
Laissez-nous vous présenter René Fallet.
Il nous donnera plus de 20 livres, aussi bons et doux qu'une bouteille qu'on débouche, aussi dur parfois qu'un lendemain de noces. Son écriture, elle se savoure, elle prend son temps, elle s'imagine, elle fait plaisir. Écriture de bistrot d'une élégance populaire, vocabulaire à la Audiard, à la Barbouze, à la Blondin, bref, à la Fallet.
Ouvrons donc cette émission en son honneur, à la santé du patron et à la tienne, René. Il est l'opposé de l'écrivain de salon. Il a du coffre et de la santé. Ses phrases et ses livres le prouvent.
Son style sent l'amitié des vieux bistrots. Un œil sur le Bourbonnais, un autre sur le Beaujolais. Il naît à Villeneuve-Saint-Georges, en Seine-et-Loire, en 1927. Mais ce petit-fils de paysan bourbonnais a ses racines à Jaligny, un village de l'Allier, pas très loin de Moulins, où il a sa raison et son jardin secret. À l'origine, c'était un coup de cœur.
Le coup de cœur, d'abord, je l'ai eu doublement, lorsque je me suis marié avec une fille du pays. Et puis, je me suis toujours plu ici. Dans mes 2 mois de vacances, je ne bouge jamais de là.
Est-ce que vous êtes capable d'écrire ici?
Pour l'été, non. Si je peux venir ici, ça m'est déjà arrivé l'hiver, parce que d'abord, je suis plus tranquille qu'à Paris, et puis il faut que je vienne là l'hiver pour éviter les tentations des copains du Bourbonnais, là. Puis enfin, toutes les tentations qui sont les miennes, la pêche, les boules, le vélo, alors au moins l'hiver, il n'est plus question de tout ça, là.
Alors vous venez dans le Bourbonnais pour faire la fête?
En fait, c'est pas une fête. Ça peut être une fête individuelle aussi. J'ai pas non plus besoin d'avoir toujours une bande de zigotos autour de moi, mais j'aime bien ça quand même. Moi, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que c'est une campagne où il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de cirque de Gavarni, il n'y a pas de...
Le château, quand même.
Je suis habitué, quoi. Non, mais c'est joli. Non, mais d'ailleurs, j'aime bien avoir le château. Quand je pêche en face, j'aime bien avoir un château devant moi qu'une usine à gaz, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'à Jaligny, vous regardez quand même les gens. On a l'impression que dans plusieurs de vos livres, il y a des figures que vous avez croquées, que vous avez senties, que vous avez vues.
Ah, non, bien, sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai quand même écrit 3 livres qui se passent à peu près dans la région.
Un idiot à Paris.
Un idiot à Paris, Les vieux de la vieille.
Oui.
Et Le braconnier de Dieu. Et là, j'en ai même un 4e en tête que j'écrirai un jour. J'aime pas tellement parler de Javigny, moi, parce que je voudrais pas attirer le touriste. Alors j'avais même une idée d'une série de cartes postales. Je voulais photographier le tas d'ordures, et puis mettre en légende « ruine gallo-romaine à Javigny ». Je voulais photographier, tiens, il y a un horrible hangar de l'EDF, je voulais le photographier et mettre en dessous petite hutte de berger bourbonnais, voilà, des trucs comme ça.
Vous avez organisé des courses de cyclistes dans la région, vous êtes un amoureux du vélo. Alors la course cycliste, ça fait venir du monde.
Ah oui, mais là, c'était une course strictement régionale, ce qui s'appelait, on avait appelé ça avec des copains les boucles de la Bèvre. Alors ça se passait, on faisait 30 km dans la campagne, on s'arrêtait dans chaque village, on buvait un coup, c'était là les grosses difficultés du parcours.
C'est pour ça que vous avez gagné cette course?
Mais il a fallu que je la gagne un jour pour les besoins de la télévision. La télé Auvergne avait voulu la filmer, ils ont dit oui, on vient le filmer, mais à une condition, c'est qu'on ait fallait gagner. Alors je m'en étais excusé platement auprès des autres coureurs. Puis enfin, mon frère l'a gagné, pas mal de copains l'ont gagné.
Michel Audiard, Jean Carnet.
Ils ont couru, mais justement, ils aimeraient bien qu'on la reprenne, cette course, parce que on n'avait pas le droit de la gagner là, sa première participation. Et alors le règlement de la course, vous oubliez, tenait en une seule ligne, les échappées sont formellement interdites.
Vous l'aurez compris avant tout, René Fallet aime le vélo, la pêche, la pétanque, jouer des coups au comptoir escorté de sa bande de zigotos, Jean Carmet, Michel Audiard et surtout Georges Brassens.
Il est très fidèle à ses amitiés, amis de plume ou copains d'enfance. Ils sont sa véritable famille, car avec ces potes-là, il communie dans l'irrespect tonique, le rire, et il s'esclaffe en buvant sec.
Je vous parle de lui, mais vous le connaissez déjà. Peut-être pas en tant qu'écrivain, mais vous connaissez ses histoires. Si je vous dis Francis Cheyras, ancien puisatier, dit le Bombé, et son compagnon d'infortune, Claude Ratigné, dit le Glaude, cela vous dit quelque chose ?
Un canon, c'est un coup de vin rouge.
J'avais bien compris. Le mot revient souvent dans votre langage.
Ah bon?
Non, merci. Je ne boirai pas de canon.
Ah bon? Eh ben, chez vous, on vieillit pas vite, mais on doit pas rigoler souvent, hein?
On ne rigole pas, comme vous dites. Pas du tout. Jamais.
Ça fait quand même plus de bien qu'un coup de pied au cul, ça.
Ma soupe, s'il vous plaît. Je suis pressé. Je suis en mission.
On y va! Sens-moi ça, si ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent l'écurie, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre, la terre, la terre, la denrée. Ça sent la terre après la pluie. Parce que par ici, on dit pas la pluie, on dit la pluie, parce que c'est encore plus mouillé.
La terre après la pluie.
Vous avez reconnu Louis de Funès et Jacques Villeray dans le rôle de la denrée. Nul doute, c'est bien la soupe aux choux. L'histoire de ces paysans, de ces deux vieux pécores, vivant dans le rameau du Bourbonnais, les Gourdiflots.
Avant de devenir un film connu et reconnu du public, eh bien oui, messieurs, dames, c'est bien un roman de René Fallet.
L'histoire est identique. Deux vieux paysans, deux vieux amis qui passent leur journée à se taquiner et à entrechoquer chopines et canons. Ils sont la risée du village, des pauvres débris, des illuminés du goulot, tout juste bons pour passer l'arme à gauche. Combattants fidèles de leur petit lopin de terre face à la grande construction moderne. Thème cher à René Fallet, qui reviendra dans plusieurs œuvres.
Nos deux zigotos n'attendaient de l'existence plus rien d'extraordinaire jusqu'à un fameux soir, où, joint de leur postérieur, ils rentrent en communication avec un extraterrestre.
Ils subsistaient encore, vaille que vaille, au hameau des Gourdiflots, deux exotiques comme on les désignait, deux fossiles de la plus belle eau, des pauvres ch'tites créatures de ce pauvre bon Dieu de bon Dieu. Le premier de ces derniers des Mohicans, de ces fruits secs tannés, confits dans le vin rouge, de ces insolites d'un autre temps, rejetés par l'électronique et même par le moteur à explosion.
Le premier donc de ces deux druides de la Chopine s'appelait Francis Cheyras, dit Sissis, dit le Bombé, vu qu'il était un tout petit peu chouillé à bossu sur les bords et aux entournures. Le second, c'était Claude Ratigné, le Glaude, comme on prononçait par chez lui.
Mais il n'y a pas que la soupe au chou.
En effet, son sens de l'image colorée et de la formule percutante l'avait conduit tout naturellement à collaborer au cinéma. J'allais dire au cinoche, en pensant d'une part à ses anti-héros et d'autre part à une très large audience populaire. Le Triporteur de Jacques Pinoteau avec Darry Cole, Paris au mois d'août de Granier de Fer avec Aznavour. Il y aura également Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier, célébré par Pierre Fresnay et Gabin sur du Audiard.
Ah, c'est vous !
Qui c'est qui vous a demandé de vous arrêter ? Alors à ce heure, on traque le promeneur paisible, c'est du racolage.
Que je me suis arrêté parce que vous m'avez fait signe ?
Moi ? Oh ! Mais j'aimerais mieux marcher de Charente jusqu'au Tibet que de demander à un foutriquet de routier de me prendre dans sa carriole.
Ben méfiez-vous, parce que si je vous revois, moi je vous écrase. Oh. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'aille jusqu'à Esnay.
Oh. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur l'horaire.
Vous pouvez en voir ou revoir quelques-uns avec plaisir, mais rien ne vaut la lecture de ses romans, la véritable identité de l'auteur. D'après lui-même, son œuvre est irriguée par deux artères principales.
La veine whisky, où se noient les amants déchirés de ses romans d'amour, Les Pas perdus, Paris au mois d'août, Charleston, Comment fais-tu l'amour cerise, L'amour baroque, Y a-t-il un docteur dans la salle ?
Et la veine Beaujolais qui arrose de plus heureux personnages, ceux du Triporteur, des Vieux de la Vieille, d'un idiot à Paris, du Braconnet de Dieu, et bien sûr, les héros du Beaujolais nouveau est arrivé. Ceux de la soupe aux choux appartiennent sans conteste à ce dernier courant de vin rouge, de truculence et de joie.
J'aime mieux être dans ce café-tabac de la rue Saint-Denis que chez Maxime, j'y suis plus à l'aise. Quoi. Ça, c'est ma nature. Hein.
C'est votre éducation aussi.
C'est ma naissance. Hein. Dans le fond, tout le monde se glorifie de sa naissance, pourquoi ne me glorifierais-je pas de la mienne ?
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de gestes garas la casse, car sa main qui claque, punie d'un flic-flac, les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
René Fallet naquit en 1927 dans l'environnement d'une banlieue grisouillarde dont l'activité ferroviaire rythmait la vie des gens. Les très nombreuses privations, inhérentes à ces années noires, servirent de quotidien au jeune René, qui fréquenta d'abord l'école primaire puis trouva des petits boulots. Il avait 15 ans. Il écrira quelques années plus tard dans son premier roman « Banlieue Sud-Est ».
Nous sommes la jeunesse de l'occupation. Nous avions 12, 13, 14 ans en 40. Nous avons commencé notre vie dans une ambiance de défaite, de pillage, de vol. Nous avons demandé des cigarettes aux Allemands sur la route d'un pays en capilotade. Nous avons bouffé du rutabaga à l'âge de la tablette de chocolat. Nous avions la vie devant nous. Nous avons les tickets de pain, les prorata, des duplicata, des pardessus en laine, de bois et des chaussettes en fibrane. Nous avions une patrie, nous avons une pétaudière.
À même pas 17 ans, il a déjà été manutentionnaire, coursier, apprenti, mais surtout depuis longtemps, il a découvert la poésie.
C'était fou de Rimbaud. Rimbaud m'a beaucoup apporté. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire. En plus, je l'ai lu. J'avais l'âge qu'il avait quand il était Rimbaud, alors je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. On s'aperçoit après qu'on n'est pas Rimbaud, mais c'est pas un déchirement, quoi. Enfin, il m'a donné cette envie frénétique d'écrire. Et puis c'est quand même un peu, à mon avis, dans les poètes qu'on apprend le mieux le français, quoi. Je lisais depuis longtemps beaucoup de poèmes, j'en écrivais moi-même, alors... Pendant l'armée, j'en ai envoyé à Blaise Cendrars, que j'admirais beaucoup. Et il a eu la gentillesse de me répondre. Et quand j'ai été démobilisé, je suis allé le voir à Aix-en-Provence. Et alors je suis arrivé là-bas. On a bu le coup ensemble. Et là, on était dans un bistrot où il y avait, je m'en souviens, un appareil à sous. Vous savez, là où il faut aligner trois mandarines, trois prunes. Voilà. Et... machinalement, je fous 20 sous là-dedans. Je tourne le truc et il est tombé un flot de pièces. Et Cendrars m'a regardé, il m'a dit, fallait, c'est un signe, parce que voilà, 4 ans que je viens tous les jours ici pour aligner les trois prunes et je ne suis jamais arrivé. Et toi, tu mets une pièce pour la première fois dedans et tout tombe. Alors il m'a dit, tu dois être doré par les dieux.
Grâce à Blaise Cendrars, qui le recommande au journal Libération, Fallet devint journaliste à 18 ans. Ce souffle inattendu et ce verbe tiré à courte rafale, balé en trois phrases le conformisme des années Pétain, ainsi que la carte du tendre des petits bourgeois étriqués.
Ainsi, dès 1947, René Fallet se met en route vers la gloire des lettres. Un grand romancier était donc né à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Nous lui devons 23 romans pour lesquels l'étiquette populiste reste largement insuffisante, voire superficielle. 6 recueils de poésie et 4 essais. Et bien évidemment, cette coopération avec le cinéma pour lequel 9 romans, choisis parmi les précédents, fourniront le scénario.
Quand je ne travaille pas, c'est peut-être là que je suis le plus occupé. Je suis un oisif qui n'a pas une minute à lui. En fait, le mot oisif n'est pas très exact pour un écrivain. On emmagasine toujours des sensations, des idées. La rue, c'est une bible, un bottin et un roman d'amour.
Je comprendrais pas un écrivain toujours dans son cabinet... Non, il faut vivre, il faut aller dans la rue, quoi. Il faut aller dans les champs. Il faut jouer au boule, il faut avoir des contacts humains. Et le seul moment où on est heureux, c'est dans le travail. Pour un paresseux, c'est effrayant. Hein. Tout le restant de l'année, je me dis, oh, m'ennuie, moi, je suis pas heureux, personne ne m'aime. Puis alors on prend un cahier, puis on se met à écrire, puis alors, parce qu'on travaille, on devient heureux. C'est bête quand même. Moi, je pensais également le contraire, que le bonheur, c'était de ne rien faire. Ben, c'est même pas vrai, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de justice, parce que c'est pas drôle d'être heureux en travaillant. Je ne peux pas rencontrer un être, c'est d'ailleurs un défaut, ça. Ou avoir une aventure quelconque dans ma vie, sans immédiatement la mettre en phrase.
René Fallet dit encore « Je n'ai jamais mis de frontière entre la vie et la littérature, et cette dernière m'a permis de crever mes propres abcès. »
Plongeons alors dans son écriture. René Fallet, c'est l'écrivain de la transition, pas tout à fait écologique à son époque, mais plutôt générationnel. Il nous parle de ces hommes et de ces femmes, cette génération de la guerre, des premiers HLM.
Ceux qui n'existent presque plus, dont René Fallet se fait l'historien du pavé. Il nous parle de cette modernité qui va se faire de plus en plus insupportable, écrasante.
Balayant la simplicité d'un petit bar de quartier, du lien qui se tord, qui se perd.
Du bruit et du grand vacarme, place au progrès.
Un autre fumeur de pipe en Solex avait dénoncé dans Mon Oncle cette froideur moderne. Les villages se meurent, les vieux aussi, mais tout le monde s'en fout.
Tiens, partons à la découverte de la soupe aux choux, puis du Beaujolais nouveau est arrivé. Au village sans prétention, il n'y avait plus rien. le four du boulanger s'était refroidi en même temps que le boulanger, qui ne cuisait plus ses couronnes qu'au cimetière.
Il n'y avait plus de lavoir sur la Bèbre, la rivière qui l'arrosait. Les battoirs s'étaient tus. En ville, les brocanteurs les exposaient dans leurs vitrines. Les laveuses s'étaient tues d'eux-mêmes, assises au coin de leur machine à laver. Il n'y avait plus pour elles ni de brouettes, ni de boules de bleu, ni d'ablettes au cœur des bulles à savon.
Il n'y avait plus non plus de curé. Le vieux n'avait pas été remplacé par un neuf. Certes, il demeurait encore un ecclésiastique affecté au chef-lieu du canton. Le saint homme avait été aigrement surnommé par les oies éparpillées « le prêtre à portée ».
Mon Dieu, oui, et que Dieu lui pardonne. Déguisé en notaire, il s'en allait porter à toute allure la bonne parole, de commune en commune, main bénisseuse et pied sur l'accélérateur. Expédié en messe, extrême onction, mariage, enterrement au grand galop de tous ses 5 chevaux. Résultat, au village, on était absous avant même d'avoir eu le temps de pécher.
En somme, il n'y avait plus de bon Dieu, ou guère.
Ou si peu. Il n'y avait plus de facteur à pied ou à bicyclette, qu'un préposé pressé en camionnette plus anonyme qu'une lettre et qui n'avait jamais une minute pour boire un canon.
Au village, en outre, il n'y avait plus d'idiots du village. Dès qu'ils manifestaient leur talent, on les ramassait comme des petits gris pour les enfermer à l'asile psychiatrique 10 heures.
Il n'y avait plus de crottins sur les routes, puisqu'il n'y avait plus de chevaux. Ni de charrettes, ni de maréchal ferrant, ni de forge, ni de soufflet, ni d'abreuvoir, ni de fer porte-bonheur, ni de hennissement, ni de coups de sabot, ni de jurons.
Parti le bourrelier. À l'usine, comme tout le monde. Et il y en avait du monde à l'usine. Davantage que dans les champs, à cause des avantages sociaux. Les paysans avaient quitté la terre. Ils fabriquaient des tracteurs à l'usage des paysans qui étaient restés à la terre. Ceux qui allaient encore aux champs ne chantaient plus les chansons de chez eux. Du transistor sortaient Tino Rossi ou les Beatles. Il n'était plus besoin d'alouettes.
Les alouettes, d'abord, on les avait fusillées, vu qu'il n'y avait plus ni perdrix, ni lièvres. La faute aux engrais, d'après les savants et les instituteurs.
Il n'y avait plus de batteuses depuis des années dans les cours des fermes à jamais silencieuses.
La municipalité avait châtré la fontaine publique sur la place du bourg. Plus de brocs, de seaux, ni de vie, ni de commères autour de la fontaine, où même la mousse n'y croissait plus.
Le sabotier avait clos, d'une croix de planche la porte de son échoppe qu'avait rendu caduque les bottes en caoutchouc.
Les affaires de Zézé Burlot frisaient le néant depuis que ses clients s'habillaient sans mesure dans les mammouths tentaculaires.
Tous les petits commerces et modestes professions du village s'étaient évanouis les uns après les autres.
On n'entendait plus la corne du chiffonnier, le pirot, battre le rappel des guenilles, des pots de lapin et des débarras de greniers.
Les rétameurs avaient plié boutique depuis qu'on jetait par-dessus bord à leur tout premier trou les casseroles percées.
On eût volontiers discuté de ces problèmes autour d'une chopine et d'une table de bistrot. Mais il n'y avait plus de bistrot, ce qui bouleversait la vie quotidienne de la commune.
En cet endroit, il y avait pourtant eu, voilà peu, jusqu'à 2 bistrots. Patrons et patronnes avaient coup sur coup pris leur retraite, les uns au cimetière et les autres dans un recoin du bourg où ils cultivaient leur jardinet.
Personne n'avait pris leur suite, ces affaires familiales n'étant pas de celles qui permettent de narguer les émirs ou baccarat.
Quoi qu'il en fût, un village sans débit de boisson n'était plus un village.
Et pour consommer, les habitants étaient contraints de se rendre à 5 bons kilomètres s'ils éprouvaient l'envie bien naturelle de siffler une rafale de mominettes pour s'ouvrir l'appétit.
Reconstruire le monde agricole autour d'un tapis de belote.
Ou disparaître un instant de la vue de la mer, comme ils nommaient leurs femmes.
Bref, le village en avait pris un sacré coup dans la pipe. Il n'avait guère d'illusions à nourrir.
Il serait un jour rayé du cadastre et du globe, rasé et remplacé par un de ces hypermarchés.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Moi! Regardez-moi bien, monsieur. Regardez-moi, je suis un évadé.
Moi aussi, du commissariat.
Ah, pécali, foutaise. Moi, je suis évadé d'un HLM. Et on aura beau lâcher la meute, les voisins, la concierge et les chiens policiers, ils ne m'auront plus. Marcel Pitou s'est évadé de son HLM! Savez-vous ce que c'est qu'un HLM, monsieur?
Non.
C'est l'enfer conditionné. On y joue du pick-up, du transistor, de la télé. Quand on fait sonner son réveil, il y a le voisin qui crie entrée. On frappe au plafond, au mur, là. On est 2000 fous, plus qu'à Sainte-Anne. Et pourtant, on a tout pour être heureux. Le chauffage pulsé, des frigidaires, un parking réservé, mais pas de mur, des cloisons. La nuit, on entend grincer les cosy corners. On entend la France qui se repeuple. On pense à la Chine. On voit des dragons au plafond. Vous êtes mariés, vous?
Pas encore, mais ça pourrait bien se faire.
Tu me demandes, Camadule, comment moi, 2B2, je vois l'an 2000? Tu le demandes à tout le monde? Mais tu es malsain, Drien. Je ne vois pas plus loin que le bout de demain. Et demain, n'oublie pas qu'on a provoqué Poulouc et Boujol à la pétanque. Et qu'il faudra peut-être qu'on s'entraîne sec cet après-midi. Passe-moi les rillettes, là. Des fois que ça m'aide à avoir des visions. On entre dans le printemps 75, c'est pour dans 25 piges.
Il n'y a qu'un truc qui n'aura pas bougé. Les conservateurs conservent toujours leurs conserves de fric en Suisse. Il y a une réserve internationale de mer pas polluée, quelques kilomètres carrés au Tuamotu. C'est là qu'ils vont en vacances pour se fabriquer des petits conservateurs tout neufs qui sentent bon le sable chaud.
Comme tout le monde ne peut pas être conservateur, les conservateurs cajolent ceux qui ne sont pas conservateurs. Ceux-là, ils ont une piscine individuelle, obligatoire et laïque, avec un dauphin en plastique, pour pas trop penser qu'ils seront jamais conservateurs. Ils travaillent 8 heures par jour, dont 6 de télé forcée pour les maintenir en forme intellectuelle.
La télé, au terme de son 10e plan quinquennal de ramollissement collectif et de liquéfaction par le vide, atteint enfin les sommets de 99% d'indices de jubilation béate. Bientôt, très bientôt, tous les imbéciles seront heureux. Les crétins satisfaits. Le tédéum de l'idiotie triomphante couvrira tous les autres bruits de la terre.
L'intérieur des tours est pressurisé, oxygène à tous les étages. Les lieux publics seront recouverts de toits de polystyrène pour les protéger des nuages radioactifs, des oxydes de soufre et autres balivernes au monoxyde de carbone.
Mais dis-toi, Camadule, que le monde est heureux. Plus une voix discordante ne s'élève pour l'agacer. Le dernier des rouspéteurs a été gommé de la surface du globe avec le dernier des artisans, le dernier poète, le dernier pêcheur, le dernier paysan. L'ultimum libre.
Tes moutons de l'an 2000 pèsent baignés de musique douce 24 heures sur 24. On les tond, on les bouffe sans qu'ils poussent le moindre soupir.
Il n'aura fallu que du temps et de l'argent pour en arriver là.
Je ne sais même plus s'il y aura encore des flics. Tout un chacun sera le flic de l'autre et son propre flic s'il le faut.
On apprendra dans les lycées que de l'inodore, de l'incolore, du sans saveur.
Moi, ce sera l'âge d'or du veau d'or, du con croissant multipliant, le mot d'amour enfin programmé sur l'ordinateur, et pas un mot plus haut que l'autre, hein. Bah, la belle vie, quoi, surgelée, à découper selon les pointillés.
Tu m'as donné soif, Camadule, avec ton putain d'an 2000. Mais non, je t'ai pas filé le bourdon, j'ai dit n'importe quoi. Si ça se trouve, ça sera le paradis, l'an 2000.
Mais oui, le paradis, la bouteille de Beaujolais au frais dans de l'eau de source, et nous allongés dans le pré à côté du soleil sur la tête, et une graminée au coin des lèvres. Bah pourquoi pas, Camadule? Pourquoi pas?
Allez, Camadule, regarde. Le Beaujolais nouveau est arrivé.
Et le Beaujolais nouveau arriva? Et du nord au midi, comme tous les 15 novembre, un printemps d'affichettes bleu ciel, rouge, orange, verte, fleuri aux vitrines des débits de boissons, pour annoncer aux passants mornes que le petit Jésus des vins était né. Et les passants mornes s'éclairaient à la vue de ces papillons, et une goutte de rubis tombait sur leur vie grise, leur demeurait à la lèvre en confetti de sang.
Le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce tédéum éclatait sur Paris, sur toutes les grandes villes, roulait dans leurs artères, chantait Montmartre et Contrescarpe, défilait dans la rue Saint-Denis, teintait Louis d'or sur tous les zincs où se pressait le peuple pour voir et toucher le divin enfant de l'année.
La fête accrochait ses lampions à tous les nez, ses limonaires dans toutes les têtes, et quand la mauvaise heure était sonnée de rentrer chez soi, c'était du moins un dos de chevaux de bois. La fête, c'en était une, païenne, chrétienne, tout ce que l'on voudra, et tout le tremblement, et tout l'étremblement dans toutes les lumières.
Le Beaujolais nouveau est arrivé, la fête est revenue pour quelques jours. Fête tuée par l'armée des pisse vinaigres, mais ressuscitée en cachette par les chantelageois increvables comme elle.
On les avait assassinés, les fêtes de faubourg et les bals de quartier, relégués au rayon souvenir, avant-guerre, belle époque, et c'était le bon temps. Mais il avait suffi de la fraîcheur d'un petit vin familier, rigolo, populo, pour qu'un 14 juillet tout neuf, improvisé, guilleret, remonte du pavé, à cheval sur des accordéons, frémissant de tous ses grelots.
Le Beaujolais nouveau est arrivé. Coquinet de la cuisse, un poil canaille, sans soutien-gorge. Il était arrivé dans les arrière-gorges, un rien pute, léger et courvêtu, un brin muguet, un brin de fille, un doigt de Dieu, un doigt de cour. Il coulait source dans les hommes. Il ne repartirait qu'en leur laissant au cœur le plus clair de la vie, la vertu d'un sourire. Il voyageait aussi, ce doux cutéreux de la Saône, ce joli voyou de la Guillotière, que les anciens paraient du nom superbe et royal de fils de l'amour.
Il prenait l'avion, ce fils de la terre, et s'en allait à l'autre bout, fils du soleil, porter la bonne parole, la bonne aventure aux quatre coins, chez les Anglais, les Canadiens et les Américains. New Beaujolais is here! En Allemagne et en Belgique, se farfadait souffler la mousse de la bière, là, le temps d'une embellie. En Suisse, son voisin et son premier client, il prenait l'accent de Lausanne pour crier « Coucou !» dans le fond des bouteilles.
« Me voilà, je suis arrivé, commençait-il partout. » Et puis, il pérorait avec les mains, bousculait l'éventail politique, perdait le fil, le retrouvait, touchait une paire de fesses par-ci, une paire de seins par-là, tendre main dingue et si gentiment zazou qu'on lui pardonnait tout ainsi qu'à un enfant gâté.
Il gagnait aux courses, allumait des quinquets dans les yeux, sautait par-dessus les comptoirs, remettait sa tournée, se renversait, cassait du verre blanc qui portait bonheur, réconciliait deux types fâchés, faisait se rencontrer deux étrangers, balançait une fille dans les bras d'un garçon, levait tous les bras en salut olympique. À la santé du patron, à celle de la vie et à la tienne, Étienne.
Puis il jouait aux dés, aux cartes, aux cons et à n'importe quoi. Puis il regardait la pendule, la voyait double, et filait sous la pluie d'automne et celle de l'hiver en se croyant général, en se croyant été, en se croyant en vacances. Puis il se couchait dans un lit, changé en lit de sable, en lit de fleuve, en lit gigogne, pour y caresser des peaux douces, plus douces que les vraies. Il était arrivé.
Le Beaujolais nouveau est arrivé. Le bourdon de Notre-Dame le carillonnait pour le Sacré-Cœur. Les 18 tonnes de la Savoyarde le répétaient à tous les clochers de la ville. On perçait les tonneaux en énimouvante des floraisons.
Quel goût aurait-il ?
Serait-il fruité ?
Souple ?
N'aurait-il pas perdu son grain ? Après le dépucelage, venait la première communion entre lui et son copain l'homme.
Au vu des affichettes sacrées, les chauffeurs de taxi freinaient à mort, désenchevêtraient leurs clients emmêlés, les entraînaient sans jeter un, abandonnant leur véhicule au hasard de la chaussée.
Les militaires rompaient les rangs, les employés de bureau sautaient par les fenêtres, les métallos brisaient leurs chaînes, les infirmiers lâchaient leurs brancards, les malades hurlaient qu'ils en voulaient un verre, les morts boudaient leurs chrysanthèmes, réclamaient de quoi se rincer la dalle, fût-elle en marbre.
Les députés quittaient la chambre en volée de moineaux, les flics jaillissaient des cars de police, les prisonniers s'évadaient suivis de leurs gardiens assoiffés et braillant « Le Beaujolais nouveau est arrivé ».
Les manifestations se dispersaient, d'autres se reformaient, oscillantes derrière d'immenses banderoles proclamant qu'il était arrivé.
Des amants tout nus s'engouffraient dans le premier bistrot pour s'y parer d'une feuille de cette vigne.
Au conseil des ministres, on entonnait des litres et l'international.
Des vaches venaient boire aux abreuvoirs magiques, certaines de fort loin.
Des morpions enthousiastes plantaient là leur slip natal, accouraient se noyer au cannelle, cherchant une mort enfin glorieuse.
Des bonnes sœurs, retroussées jusqu'au nombril et le cul aux zéphyrs, pétées à zéro, dansaient la gigue au sortir du tabac du Vergalan, un des hauts lieux du Messie flambant neuf. Hosanna, beuglaient les saintes femmes.
Le Beaujolais nouveau est arrivé. Et nous refermons cette émission consacrée à René Fallet, ce prince des lettres, ce braconnier de l'amour fou, anard à fleurs de peau, fleurs de papillon et fines fleurs de la banlieue sud-est.
À la santé du patron et à la tienne, René.
Les derniers mots seront de lui, dédiés à son plus fidèle ami Georges Brassens.
Nouvelle de la mort. Notre chat Bono disparaît après 8 ans de tendre et précieuse compagnie. Quant à moi, je traîne toujours entre deux eaux avec parfois l'impression désagréable de m'éteindre doucement. Georges est peut-être mort très vieux à 60 ans. Y parviendrons-nous ? La question sera posée.
Ce serait le moment où jamais d'écrire « Demain il fera nuit ». Je suis cuit à point. Je ressemble au grand-père que je n'ai pas connu.
Ce ne sera pas un livre d'humour et de verve.
Mais je n'ai plus... n'aurai plus le cœur ou le courage de me rasseoir face à un cahier.
C'est dérisoire auprès de tout ce noir que j'ai approché.
Avec Georges, nous parlions en riant de la mort. Ne serait-ce que pour ce détail, il m'est irremplaçable.
Depuis qu'il est mort, la mort ne fait plus rire personne.
À Georges, au fond du jardin, attends moins 5 minutes. Pense à l'eau fraîche pour le pastis, René.